Bonjour. On va commencer. Pardonnez-nous, on a un petit peu de retard, mais on attend encore une personne. Alors, on ne sait pas si ce sera Chantal Akerman ou si ce sera Manuel d'Oliveira. Je propose qu'on mette ça. On peut voter, on peut cliquer. Et celui qui aura le plus de voix, si c'était les deux, ça serait bien. Donc, il manquera une chaise. On ne sait pas. Si les deux viennent, vous rajouterez une chaise. Bon, enfin, c'est soit une cinéaste belge, soit un cinéaste portugais. On a déjà un cinéaste belge qui est Luc Dardenne. Je commence par présenter mes invités. Merci Luc d'être venu. Luc est venu sans Jean-Pierre. Jean-Pierre est loin, mais Luc est là. Jorge Zamprun, merci d'être là. Vous connaissez, enfin, je ne vais pas le présenter, scénariste, écrivain, cinéaste. On a vu hier son film, Les Deux Mémoires. Je voulais vous dire à quel point c'est un film qui n'a pas vieilli du tout et je voudrais qu'on le restaure parce qu'on a une copie un peu abîmée, vous avez vu. On a une copie unique ici, mais c'est un film qui a gardé son impact. Vous l'avez tourné en 1973 sur la mémoire de la guerre d'Espagne. Et je dois dire qu'il est d'une modernité dans le montage, dans le langage qui est, à mon avis, formidable. Donc, il faut qu'on s'en occupe. C'est le rôle des cinémathèques. Donc, Jorge Zamprun a été aussi ministre de la Culture en Espagne, évidemment, mais enfin, voilà, on aura l'occasion d'en parler. Je remercie Costa Gavras, mon président, d'être à côté de moi. Alors, là, on a le deuxième portugais, si Manuel de Oliveira vient. Donc, on aura toutes les générations. Hugo Vieira da Silva, jeune cinéaste portugais. Vous avez votre film, c'est Body Rise, qui est sorti en 2006. Donc, c'est vraiment un jeune cinéaste, et c'est bien qu'on ait le point de vue d'un jeune cinéaste. Et puis, vous avez votre traductrice, c'est ça? Je ne connais pas votre prénom. Vous allez... Hélène. Merci, Hélène, d'être là. Et puis, on a notre ami Radu Mihaileanu, qui est à la fois, qui est français, il faut le dire, d'origine roumaine, qui a été longtemps assistant, entre autres. Je sais que tu as été assistant d'un homme que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui est Marco Ferreri. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis Radu a fait trois films importants: Trahir, Train de vie, Va vite et deviens. Et je crois qu'il prépare son prochain film. C'est ce que tu nous as dit. Voilà. Donc, alors, dans cette discussion, on voulait aborder la question de l'Europe. Alors, je vais tout de suite un peu y aller de mon petit couplet. J'aurai l'occasion de lire. On avait invité des cinéastes qui n'ont pas pu venir pour des raisons de santé, mais qui ont envoyé un texte, et je pense que c'est très important qu'on le lise. C'est un texte des Giannikian. Vous savez qui est. C'est un couple de cinéastes extrêmement importants, Angela Ricci-Lucchi et Yervant Giannikian. Donc, ils sont à Rome. Et je lirai et je découvrirai en le lisant le texte qu'ils m'ont envoyé et qui a été traduit cette nuit et qui parle de l'Europe. Je crois sur un versant assez politique, mais je crois que c'est aussi bien de parler politique quand on parle de l'Europe. Nous avons imaginé une programmation autour de l'Europe à la Cinémathèque française. On a inauguré le cycle il y a trois jours avec Jerzy Skolimowski, qui était sur cette scène aux côtés de Costa, aux côtés de moi-même, mais aussi aux côtés de Jean-Pierre Jouyet, qui est secrétaire d'État aux affaires culturelles, et de Renaud Donnedieu de Vabre, ancien ministre de la Culture et ambassadeur chargé des versants culturels de la présidence française. Alors ça, c'est un petit peu le caractère officiel, mais ce caractère officiel, il existe. Je voudrais dire qu'on peut polémiquer là-dessus, et je sais qu'on peut toujours polémiquer en France, on polémique sur tout, on peut débattre de tout aussi, ça va de soi, tout est ouvert au débat. Mais pour nous, je tiens à dire que la programmation que nous avons faite à la Cinémathèque française sur ce thème de l'Europe, nous l'avons faite nous-mêmes. Nous y avons pensé avec mon équipe, surtout avec Jean-François Roger, qui est en charge de la programmation. Nous avons essayé de trouver des films qui traitent comme ça du thème de l'Europe depuis Rossellini, Renoir, Max Ophüls et beaucoup d'autres. Et on a essayé de venir jusqu'à aujourd'hui, à prendre des cinéastes contemporains, évidemment. Parce que ce thème de l'Europe, c'est un vrai thème. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à toutes les politiques publiques, qu'elle soit politique ou politique culturelle, évidemment, chacun a son opinion, et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. Mais ça offrait un prétexte, une occasion aussi de s'inscrire dans cette réflexion. Et si une édition pour lesquels nous sommes là aujourd'hui. Ce salon du livre, de cinéma, du DVD, des revues, et qui depuis deux jours nous vraiment fait qu'on rencontre, on organise des discussions depuis deux jours avec des cinéastes, avec des scénaristes, avec des agents, avec des auteurs d'ouvrages. Voilà, pour la Cinémathèque, c'est une manière de s'inscrire à la fois dans le présent, de s'inscrire comme un lieu où le cinéma se discute, où l'édition se discute, où la pensée se discute, mais aussi un lieu de programmation, évidemment, et un lieu de discussion. Je dirais qu'on ne renonce à rien de ce que nous sommes, une institution liée à la mémoire, les deux mémoires, il y en a plus que deux dans le cinéma, il y a toutes les mémoires du cinéma. C'est notre vocation, et en même temps, on profite de cette ouverture-là pour inscrire, faire venir des gens, donner la parole, et que plus les paroles sont diverses, plus elles sont libres, plus elles permettent d'échanger, mieux c'est. Voilà, c'est ma conception à la fois de la démocratie, c'est ma conception de l'amour du cinéma, c'est ma conception de l'Europe, si j'en ai une. Je ne crois pas en avoir une vraiment, mais c'est ma conception de l'Europe. Je dois dire aussi que pour nous, le fait qu'on ait ouvert avec ce dialogue que j'ai trouvé personnellement magnifique, à la fois sur les hauteurs, comme on dirait, spirituelles, entre Antonio Tabucchi, qui est là, et Manuel Oliveira, pour moi, c'est des moments comme ça que la Cinémathèque peut se permettre d'organiser. Elle ne peut pas les préméditer, parce que quand une chose magnifique arrive, on ne peut pas la prévoir. On peut juste essayer, modestement, d'en organiser les contours. Après, c'est le génie des gens. C'est le talent, c'est la modestie, c'est la culture, c'est l'expérience, comment dire, c'est ce qui fonde les personnes. Et je remercie encore une fois Antonio, qui a été magnifique dans sa manière d'aller chercher Manuel Oliveira. Et entre eux, ça a été d'une grande complicité, d'une grande intelligence, d'une grande poésie et d'une grande humilité. Nous sommes, voilà, c'est notre condition d'être humain, de rester là où nous sommes, à la place qui est la nôtre, et d'essayer de, comme ça, de faire en sorte que quelque chose se transmette au public et que le public soit évidemment le premier à recevoir, à percevoir, à participer et à prendre ce qu'il y a de bon dans ce qu'on peut faire. Voilà. J'arrête là parce que sinon je vais... Alors, Costa, j'ai envie que vous commenciez parce que vous êtes... On ne s'en parle jamais parce que pour moi, vous êtes cinéaste français. Vous n'habitez pas Paris, mais vous êtes européen. Je dirais presque, vous êtes venu de Grèce, vous êtes venu en France pour faire des études de cinéma, parce que vous ne pouviez pas les faire dans votre pays à cette époque-là. Donc il y a aussi cette dimension de passer les frontières, et je pense que c'est vrai pour vous aussi, Jorge Samplun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut changer, il faut s'exiler, parce que ce qu'on a envie de faire, au plus profond de soi-même, on ne peut pas le faire chez soi, et qu'il faut aller ailleurs. Et comment on est reçu ailleurs? Qu'est-ce qu'ailleurs on peut se permettre de faire? Qu'est-ce que la France vous a permis de faire? Et qu'est-ce qu'en retour, vous avez continué d'exporter vers d'autres pays, pas seulement la Grèce, votre pays d'origine, mais aussi les États-Unis et le monde entier, l'Amérique latine, etc. Donc, cette question de l'Europe, on peut l'élargir, on peut la faire éclater. C'est au fond comment soi-même, on est citoyen d'un monde plus vaste, qu'est le monde du cinéma. Et pour moi, le monde du cinéma n'a jamais été un monde de frontières. Jamais le cinéma n'a été un monde de frontières. Nous aimons le cinéma. Et la Cinémathèque, depuis Langlois, aime le cinéma. Elle ne s'est jamais posé la question des frontières.
Bien, bonsoir. Il est vrai que le cinéma n'a pas de frontières, mais il en a quand même, d'une certaine manière. Moi, le film que je fais, si j'avais été supposé que j'étais metteur en scène en Grèce, ce qui était impossible à l'époque, aux années 50, quand je suis venu ici, et par la suite, les films que j'ai faits, je les ai faits parce que je suis venu en France, parce que je suis trouvé dans un milieu, dans une façon de voir le monde. J'ai appris des choses, donc je n'ai pu le faire. Je supposais aussi, je le dis souvent, que je suis allé en Amérique, je migrais en Amérique, à Hollywood, je n'aurais jamais pu faire les films que je fais. Donc, je fais les films que j'avais envie de faire, et peut-être cette envie aussi m'est venue de France. Mais je pense que les frontières existent quand même d'une certaine manière, dans la mesure où je pense que les films sont, on en parlait avec Georges Samprun tout à l'heure, sont nationaux. Je dirais même qu'avant d'être nationaux, ils sont personnels, ils sont nationaux, et après ils deviennent internationaux. L'avantage du cinéma, c'est qu'on peut recevoir en France, ou en Amérique, ou ailleurs, des cinéastes, la France l'a toujours fait, des cinéastes étrangers, et de faire des films comme ils le voulaient, des films français ou des films de leur propre, avec des histoires qu'ils voulaient raconter. Mais ça n'empêche que le cinéma est national. Quelqu'un a dit pour les romans que le roman, c'est la vie privée des nations. Je pense que le cinéma, à son tour aussi, c'est la vie privée des nations. Et c'est la vision d'une personne, de deux, trois personnes. C'est vrai que quand je parle de... On parle d'auteurs de cinéma. Moi, les films que j'ai fait avec Georges Saint-Prin, on a fait trois films ensemble, je ne pense pas qu'ils auraient été les mêmes si ils avaient fait avec d'autres personnes, d'autres scénaristes. Voilà. Donc, c'est la vie d'une personne ou de deux personnes, ou des deux en se mettant ensemble.
Qu'est-ce qui vous rapprochait, par exemple, tous les deux, d'être exilé, par exemple, ou d'avoir cette double, ce regard
C'était assez étonnant, parce que moi, j'ai connu Georges, j'en parlais un peu hier soir, j'ai connu Georges, c'est les montants à la campagne. Georges, à l'époque, il était, disons, clandestin, il était encore membre au début des années 60. Et puis, un jour, il a été exclu du parti, il a écrit un livre, et tout d'un coup, il s'est ouvert, il est devenu une autre personne. Et quand j'ai eu envie de faire Z, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était Georges. Et on a commencé à travailler, on a travaillé d'ailleurs très très vite. On s'est isolé dans la maison d'amis, près de Paris, et pendant presque un mois, la seule chose qu'on faisait, c'était de sortir pour déjeuner, jouer au flipper de temps en temps, quand on avait assez de parler de ce problème-là. Et on a fait le scénario très 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 vite. Georges connaissait bien l'histoire. Et ensuite, on a fait l'aveu ensemble. Et c'est vrai aussi que je ne voyais personne d'autre que Georges pour adapter cette histoire qu'il connaissait personnellement, puisque un des personnages du film, il le connaissait personnellement. Il l'avait rencontré quand il était prisonnier dans les camps. Donc, Alors, il y avait une troisième personne, on l'a souvent dit, c'était Georges étant espagnol, moi grec, et Montand étant italien. Donc, c'était un peu la Méditerranée. Et on s'est très bien entendus tous, presque sur tous les plans, même si on n'était pas d'accord sur tous les points de parlant de politique, mais on était quand même sûr que ce qu'on faisait, c'était ce qu'il fallait faire, ce qui nous intéressait de faire. Et c'est vrai que c'était européen, puisqu'on a fait des films sur la Grèce, sur la Tchécoslovaquie, et puis sur la France. Et c'est vrai que c'était d'une manière des films européens, c'est des histoires d'ailleurs faites en France et en langue française. Ce qui à l'époque était possible, je crois qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Je crois que le public a beaucoup changé et on veut une autre authenticité. Nous, on était obligés de le faire, de faire un film avec avec une histoire grecque, avec des acteurs français parlant français, parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement. Il allait de même avec Poulavé, par exemple. C'était acceptable. Mais je pense, pour revenir au problème européen aujourd'hui, et j'en termine, le cinéma européen, oui, il y a un cinéma européen, mais je pense que sa base, la base de ce cinéma, devrait et doit être économique. Et c'est vrai que la France a donné le premier exemple. Vous savez que Eurimage, par exemple, qui donne des subventions à des films européens, à des coproductions, a été essentiellement inventé ici en France, parce que la France, dans ce domaine-là, elle a beaucoup le fer de lance de ces idées-là qui consistent à dire que chaque pays doit avoir son cinéma. Chaque pays doit avoir ses propres images. Et la seule façon d'avoir son propre cinéma, il faut que l'État participe. Parce que sans la participation de l'État, c'est impossible. Alors, il y a des États français et européens qui commencent à le comprendre. Il y a des ministres de l'économie qui ne veulent pas le comprendre, qui renaclent un peu partout. Mais c'est une vérité, à mon avis, qui commence à être acceptée un peu partout, en tout cas par les cinéastes et par les hommes des arts, c'est absolument accepté. Espérons en Europe que tous les gouvernements et que tous les ministres, surtout de l'économie, le comprendront.
Georges, vous voulez développer, vous accompagner ce que vient de dire Costa ou...
Oui, d'accord. Je crois que Costa a raison en disant que le cinéma... avant de parler cinéma, parlons un peu de l'Europe. Quelques minutes, quelques secondes. L'Europe se distingue comme entité dans le monde, dans la globalisation de ce monde actuel. Elle se distingue par une caractéristique très particulière, c'est que c'est une diversité de cultures. L'Europe n'est pas l'homogénéité ni l'hégémonie. L'Europe, c'est la diversité des cultures. Une diversité qui est fondée sur une unité profonde, qui est plutôt politique d'ailleurs, ou spirituelle que culturelle. C'est la tradition des libertés, la tradition démocratique, la raison démocratique, pour simplifier. Une fois, l'une des résolutions du Conseil européen, dans un endroit près de Bruxelles qui s'appelle Laeken, a dit « Les seules frontières de l'Europe, c'est la démocratie ». La seule frontière de l'Europe, c'est la démocratie. Cela dit, à part ça, la diversité, il y a un cinéma européen qui peut être parlé et entendu en tchèque, en slovène, etc. Ça, c'est la richesse de l'Europe. De garder cette diversité-là, qui n'est pas comparable à d'autres. Ce n'est pas, le cinéma américain n'est pas fondé sur cette diversité-là, pour des raisons historiques. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou moins bien. C'est historiquement différent. Cette diversité-là, il faut la maintenir. Il faut la développer. Il faut que la possibilité de faire un film dans une langue minoritaire, tout à fait minoritaire, et qu'il soit quand même un film européen. D'où les structures européennes d'aide économique, de diffusion, de distribution, qui permettent, même à un film dans une langue très minoritaire, d'avoir une répercussion européenne. Donc, ça, c'est l'Europe. Ça, c'est un point de vue. Je pense que là, je ne veux pas entamer, parce que je crois que Luc va parler de ça. Tout à l'heure, on a vérifié qu'on avait la même idée. C'est un point de vue qui, pour la première fois, a été exprimé philosophiquement, on ne parlait pas de cinéma, dans une conférence d'un philosophe allemand, juif allemand, qui s'appelait Edmund Husserl, et qui a fait une conférence à Vienne, qu'il a répétée à Prague quelques mois plus tard, où, pour la première fois, on a défini ce qu'était que l'Europe. Définition, bien sûr, un peu philosophique, un peu abstraite en apparence, mais l'Europe, en insistant sur ce fait-là, l'Europe, ce n'est pas... Bien sûr, c'est un territoire, mais en même temps, ça n'a pas de frontières. C'est une figure spirituelle. Et elle est destinée à créer, à inventer une supranationalité qui sera complètement différente et nouvelle dans l'histoire du monde. C'est en 1935 que c'est dit, cette conférence-là. Et c'est répété à Prague. Et à Prague, la personne qui a organisé la conférence de Husserl s'appelait Patočka. Patočka est un philosophe, très difficile à lire par moments, très facile par d'autres. La plupart de ses livres écrits en tchèque ou en allemand sont traduits en français. Et Patočka, qui a donc organisé en 1935 cette conférence de Husserl à Prague sur l'Europe, a écrit beaucoup sur l'Europe, a été chassé de sa chaire de philosophie par les nazis, En Tchécoslovaquie, lors de l'occupation nazie, a été en 1948 chassé de sa chaire de philosophie par les communistes qui avaient pris le pouvoir. L'aveu est un peu à propos de cette histoire tchèque, ce film-là, de Costa, et qui est sorti de cet ostracisme et qui est mort comme porte-parole de la Charte 77, c'est-à-dire l'organisation de Václav Havel et des dissidents tchèques, qui est mort à la suite d'un interrogatoire un peu trop poussé de la police communiste tchèque. Et le jour de son enterrement, je trouve ça une scène de cinéma, le jour de son enterrement, la police tchèque a fermé tous les fleuristes de Prague pour qu'on ne puisse pas amener des fleurs, porter des fleurs sur la tombe de Patočka. Patočka, voilà un personnage européen. Il est complètement tchèque, il écrit dans deux langues, voilà un personnage complètement européen. Voilà. Ça, c'est une métaphore philosophique de ce que j'entends par l'Europe. Alors, le cinéma européen, regardez un film récent, pour moi, est presque un exemple de cinéma européen. De l'autre côté, metteur en scène allemand-turc, ou turc-allemand, on ne sait pas très bien, sujet complètement européen dans la mesure où il touche à un des problèmes essentiels, c'est le rapport avec l'autre, l'immigré, le rapport avec les traditions d'ailleurs, et en même temps, complètement européen dans le sens qu'il casse les frontières. Voilà, pour moi, je ne suis pas en train de faire... Il y a peut-être de meilleurs exemples à trouver, mais voilà un exemple concret de film européen qui garde à la fois les qualités national, parce que c'est un film à la fois franco-turc, ou turc germano-turc, ou turc germanique, et qui en même temps débouche sur cet universel européen qui est l'autre, le rapport avec l'autre, le rapport avec l'immigration, le rapport avec les valeurs fondamentales qui s'expriment dans la vie quotidienne aussi, qui sont des rapports à la raison démocratique. Voilà, à mon avis, on commence par la philo et on finit par un beau film, et on a à peu près une idée de ce que c'est que l'Europe.
Un film de Fatih Akim. Mais
dans ce que vous dites, que je trouve intéressant comme métaphore, si vous voulez, quand vous évoquez la figure de Potochka, c'est-à-dire que, en gros, l'Europe est une, j'allais dire une promesse. On va parler des fers d'Ardennes, mais c'est une promesse qui oblige les gens qui réfléchissent, qui pensent, qui créent, qui filment, qui écrivent, à penser plus large, à penser à l'échelle du continent. Et moi, je trouve que le cinéma, c'est un art nécessairement qui oblige à penser plus large que soi. Parce que l'écran, la projection, et si on prend le cas des frères d'Ardennes, Dieu sait si leurs histoires sont extrêmement à l'échelle, même pas d'une ville, d'un quartier. C'est un personnage, deux personnages. On est dans un réseau extrêmement tressé de la réalité. C'est une réalité que vous percevez, que vous êtes capable de décrire centimètre par centimètre. Et pourtant, on a ce sentiment, quand on voit vos films, de respirer plus large que le périmètre que vous décrivez. Parce qu'il y a une sorte de, comment dire, d'universalité du cinéma, il y a une sorte de capacité que le cinéma offre à toutes les histoires à nous interpeller, à nous prendre à nous amener dans cette réalité. Est-ce que ce que je vous dis vous te parle, Luc?
Mais je dirais que la littérature aussi peut permettre ce rapport avec la singularité et l'universalité. C'est pas seulement le cinéma.
Sauf que le cinéma, on est plusieurs à regarder, c'est ça.
Il y a peut-être la langue, il y a les corps qui donnent une singularité plus forte. C'est vrai que la langue, on en a un peu parlé, est sans doute une des frontières qui a permis au cinéma européen de faire des grands films, comme Paisa, par exemple, de Rossellini, qui joue uniquement sur les rapports de langue, de malentendus. Et c'est vrai que ce sont des frontières, enfin, les langues sont des frontières qui ont permis de créer des passages, des ponts vers l'autre. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait York, c'est effectivement l'Europe. Parce que je me suis dit comment aborder le sujet, si je puis dire, de l'Europe comme sujet de cinéma. Et bon, je savais comment prendre les choses. Et en entendant ce que dit York, en disant l'Europe, c'est le rapport à l'autre. C'est-à-dire comment il faut que l'autre existe et comment on va trouver ce rapport avec lui. Et il a dit c'est une figure spirituelle, l'Europe. Je sais aussi que c'est des frontières concrètes, qu'on remet des gens à la frontière tous les jours en France, en Belgique. Bon, ça, on en parlera, je suppose, aussi. Mais je pense, moi, que l'Europe aussi, c'est une figure spirituelle, c'est une fiction, c'est une image ou c'est un roman où on dit la fiction est plus importante que la réalité. Pour comprendre peut-être cette réalité, mais elle est plus importante, mais elle a échoué. C'est-à-dire que la raison démocratique dont parlait York, eh ben, on l'a développée, bien sûr, et on a cru aux droits de l'homme, et on y croit toujours, et on a raison, et en même temps, on échoue dans leur réalisation. On a commis pas mal de massacres, nous, Européens. Et en même temps, on a toujours gardé aussi cette figure spirituelle, et justement, pour reprendre ce que tu disais sur Husserl, il disait à la fin de sa conférence, le péril de l'Europe, c'est la lassitude, c'est-à-dire de ne plus croire en cette figure spirituelle, qu'on pourrait appeler la raison démocratique ou les droits de l'homme, bon. Mais c'est le fait que l'être humain n'est pas ce que la réalité montre qu'il est, qu'il peut rester, bien que cette réalité le montre inhumain, et le XXe siècle particulièrement, comment garder la croyance, la fiction, l'espoir. Et pour moi, l'Europe, c'est ça. C'est être pris entre le rêve de cette croyance, de ces droits de l'homme, de cette raison démocratique, de ce rapport à l'autre où on accueille l'autre, on accepte la diversité, on communique avec, et on essaye un échange, et on ne le tue pas. Mais la réalité, oui, on a beaucoup tué. Et quand je pense, j'ai un peu pensé à des films comme ça, un peu emblématiques, que tout le monde connaît plus ou moins, a vu au moins une fois. Et je pense par exemple à La Grande Illusion de Renoir. Mais dans La Grande Illusion, il y a question de frontières, évidemment, de frontières géographiques et de frontières sociales aussi. Mais on peut dire qu'en gros, pour Renoir, en 1937, je pense, hein, quand il a fait le film, il espère encore que ces frontières, que le mal qui vient des frontières et qui produisent la guerre, les nationalismes, etc., qui produisent la guerre, il espère que c'est dépassable. Il n'est pas bêtement, comment vais-je dire, angélique, il n'est pas trop naïf, mais il croit quand même que les hommes sont capables d'entente malgré les frontières. Et puis, si on prend un autre film français comme Shoah de Lanzmann, évidemment, la frontière a été terrible. Là, c'est une frontière mentale, l'antisémitisme qui a produit la mort de 6 millions de Juifs. C'est une frontière qui a produit dans la réalité quelque chose qui n'était jamais arrivé. Et là, on ne pense plus que le mal est remédiable, comme il l'était dans La Grande Illusion de Renoir. C'est plus difficile à... Bon, mais je continue à penser que nous devons croire à cette croyance de l'humain, des droits de l'homme ou de la raison démocratique, etc., qu'il faut persévérer. Mais en même temps, on est aussi abîmé. Et que, bon, être... Enfin, si je pense l'Europe comme sujet de cinéma, eh ben je la pense un peu comme cette difficulté, cette presque impossibilité de poursuivre le rêve, mais qu'il faut quand même le poursuivre. Et je pense à un autre film qui a Europe dans son titre, qui est Europe 51, de Rossellini. Et si vous vous souvenez, quand Ingrid Bergman, à un moment donné, elle se trouve avec le juge, et le juge lui dit, donc puisque cette femme a perdu son... Enfin, à un moment donné, bon, je raconte en deux mots le film, comme ça, ça permet peut-être, parce que tout le monde n'est pas censé l'avoir vu, Ingrid Bergman est une femme qui a une vie très mondaine et qui vit dans les beaux quartiers de Rome. Et un jour, elle rentre à la maison. Et ils ont un enfant, mais ils ne s'occupent pas beaucoup de cet enfant. Cet enfant qui s'appelle Michel, je pense. Et l'enfant tombe du cinquième étage. Et un peu après, on se rend compte qu'en fait, il s'est suicidé et il meurt. Donc, culpabilité de la mère. Et elle dit à son mari, nous devons changer de vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle a un ami journaliste communiste qui va l'emmener dans différents quartiers où elle va découvrir la misère, la prostitution et la réalité qui niait, parce que je pense que, si je puis dire, je pense qu'Ingrid Bergman faisait partie de ces femmes qui, enfin, Irène, le personnage, faisait partie de ces gens qui croyaient aux droits de l'homme, à la beauté des droits de l'homme, comme ça, de manière abstraite. Et quelque part, elle a raison, je crois, d'y croire, même de manière abstraite. C'est mieux que de ne pas y croire. Mais elle découvre la réalité. Et elle devient de plus en plus, comment vais-je dire, elle s'isole de plus en plus par rapport à son mari, par rapport à son ami journaliste et par rapport à tous les gens. Et la famille commence à s'inquiéter de voir qu'elle a un comportement étrange. Elle va dans une usine travailler à la place d'une fille pour qui elle avait trouvé un travail. Et elle aide un gars, un petit gangster à un moment donné. Donc elle a un comportement qui décale par rapport à... Ah oui. On va laisser venir.
Bonjour Manuel. Pas ici. Manuel. Ça va? Vous avez un autre cinéaste portugais. Alors le Portugal est dominant, on peut dire. Hein. On accepte, on est obligé d'accepter.
On est obligé, c'est un petit pays.
Chantal, on l'attendait, j'espère qu'elle va. Bon. Luc.
Oui, donc je termine en disant que dans Europe 51, à un moment donné, donc, Irène, Ingrid Bergman, se trouve face au juge qui lui dit « Appartenez-vous à un parti politique ?» Elle dit non. La solution politique, pour sa crise qu'elle est en train de vivre, n'est pas une solution. Et il lui demande aussi... voulez-vous rejoindre un ordre religieux ? Et elle dit non. Et puis on lui dit, voulez-vous rejoindre le domicile conjugal ? Et elle dit non. Et elle est internée, et dans la version que j'ai vue, il paraît qu'il y a d'autres versions, mais on finit avec le plan où elle est là, en haut, dans l'asile, derrière la fenêtre. Elle est devenue folle. Mais cette folie, eh ben, moi je dirais que ce film, il nous dit que cette folie, c'est de croire dans l'amour, parce que c'est ça, elle veut aimer. maladroitement peut-être, elle veut se donner directement, elle ne veut pas passer par les médiations, elle veut aimer et elle veut que tout le monde s'aime, mais elle ne comprend pas comment on peut exploiter les gens, comment on les exploite, comment des gens peuvent vivre dans les conditions misérables dans lesquelles ils vivent. Et je pense que ce rêve qui devient une folie, mais c'est un peu notre cas à nous, Européens, après ce XXe siècle, où on continue d'y croire. Et voilà ce que je dirais quand je pense à l'Europe comme sujet de cinéma. C'est à ça que je pense d'abord, c'est-à-dire, avant de la voir, c'est comme, je pense à l'Europe faisant des films, si tu veux, c'est-à-dire l'Europe qui montre des films dans lesquels il y a cette difficulté, presque impossibilité de rejoindre une réalité avec un idéal, avec cette figure spirituelle dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, mais en même temps, il faut être aussi plus concret, je pense, parce que tu parlais de la promesse, mais nous, le film, c'était vraiment essayer de montrer comment un garçon qui vit sous la coupe de son père qui exploite les immigrés, les étrangers, ceux qui viennent, qui passent la frontière et qui sont très fragiles, parce que quand on passe la frontière, on vient. Si on prend passer la frontière dans le sens venir de quelque part pour quitter son pays, c'est très difficile et. Bon, je ne l'ai jamais fait, je ne peux donc peut-être pas en témoigner, mais il y en a qui l'ont fait, puis dans d'autres conditions plus difficiles. C'est vraiment perdre toute une identité, des repères, une famille, une langue, plein de choses. Et on vient dans un autre pays, et là, vous êtes à la merci de tous ceux qui veulent profiter, qui sentent votre faiblesse. Et quand un autre homme, un autre être humain sent votre faiblesse, soit il vous aide, soit il est terrible avec vous et il vous roule dans la farine, et si pas plus. Et nous, ce qu'on s'est dit avec la promesse, ben on va essayer d'imaginer comment un garçon qui est éduqué par son père à mépriser l'étranger, à le considérer un peu comme une marchandise, un objet à exploiter au maximum, comment ce garçon, grâce à une étrangère, va faire le chemin, je dirais, de se sentir obligé de dire à cette femme la vérité. Je ne vais pas raconter le film, mais alors que son père l'a toujours appris à mentir pour exploiter au maximum, a toujours camouflé, toujours triché un peu avec le réel, eh bien, au bout du compte, c'est une femme étrangère, et là, il ne s'y attendait pas, ce gamin, qui va l'amener à dire la vérité. C'est-à-dire, à rejoindre cette idée de l'Europe comme figure spirituelle, comme cette capacité si souvent, je dirais, faible et bafouée, mais cette capacité à être solidaire de celui qui est faible, de celui qui va mourir, de celui qui est dans la difficulté.
Merci. Merci, Luc. Merci, Luc. La promesse passe tout à l'heure, ce soir, et Luc le présentera. Radou, est-ce que tu veux... Toi, l'Europe, on a l'impression que c'est vraiment aussi un scénario. C'est aussi un scénario. Ça t'offre aussi un cadre de scénario. Est-ce que je me trompe ?
Peut-être pas, mais je ne saurais pas le théoriser aussi bien, ou je ne saurais pas analyser aussi bien ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé. C'est un sujet vaste. Qu'est-ce que c'est l'Europe ? Qu'est-ce que c'est le cinéma européen ? Quelle est sa particularité par rapport au cinéma asiatique ? Sud-américain surtout, africain, je ne compare pas avec le cinéma américain qui lui est très spécifique, je dirais beaucoup de choses subjectives plutôt, donc qui se réfèrent à mon histoire personnelle, vue de Roumanie où je suis né, ou d'où je regardais l'Europe, mais à cette époque-là pour moi l'Europe était un autre continent, puisqu'on ne pouvait pas y accéder. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a encore une réalité d'aujourd'hui, que l'Europe n'est pas une. Il y a beaucoup plus d'Europe, même politique. Bien sûr que l'Europe n'est pas une parce qu'il y a une diversité, et ça, on en est tous heureux, on en a parlé. Mais à l'époque et encore aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que l'Europe était comme une sorte de pyramide ou comme une sorte de théâtre, mais tout le monde n'était pas aux premières loges, et encore moins aujourd'hui. Il y avait des gens à la périphérie de l'Europe qui ne se considéraient même pas en Europe, et qui rêvait d'accéder effectivement à cette Europe spirituelle, cette grande Europe qui a bâti une partie du monde. Pas l'Asie qu'on a ignorée pendant longtemps, croyant qu'on était les meilleurs du monde, et les piliers de la civilisation passée, contemporaine et future. Mais effectivement, l'Europe, pour nous, c'était le territoire spirituel le plus merveilleux et on n'avait qu'une hâte de le rejoindre d'une certaine manière. On essayait de se cultiver, de lire d'une manière cachée. Mais donc le rêve, il y avait un petit jeu à la maison entre mon frère, moi et ma famille, puisqu'on rêvait tous d'y échapper un jour, comme Costa, j'imagine, a rêvé d'échapper de Grèce. Nous, on rêvait d'échapper, de fuir la Roumanie, pas parce que la Roumanie ne nous correspondait pas en tant que territoire culturel, mais parce qu'il y avait une dictature. Et donc, on se projetait dans un pays ou dans un autre, et fatalement, c'est-à-dire à la fin, on se voyait qu'en France. Et c'est là où peut-être où on rejoignait notre rêve d'Europe. On disait qu'est-ce que c'était le pays idéal pour nous. C'était effectivement un pays où il faisait bon vivre, c'est-à-dire où il y avait une certaine culture, la démocratie, les droits de l'homme, tout ce qu'on manquait cruellement, où on pouvait aller voir tous les films du monde, tout ce qu'on manquait en Roumanie, lire tous les livres du monde, ou en tout cas avoir le droit de les acquérir, voir toutes les pièces du monde, même si le théâtre français n'était pas, lui, le plus fort à cette époque-là, mais tous les grands metteurs en scène de théâtre du monde passaient par Paris. Tous les grands acteurs passaient par Paris, les peintres, les orchestres. Donc, fatalement, bon, il y avait l'Italie qui n'était pas loin, mais l'Italie, on se disait, c'est quand même des Roumains civilisés. Donc, ils sont aussi voleurs que nous. Donc, on ne va pas s'y adapter pendant longtemps. Donc, la France était l'équilibre parfait. Ça nous semblait vraiment... et l'image de l'Europe. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas dire si aujourd'hui c'est vrai, c'était en tout cas notre image.
On se voyait... Pardon, tu parles français depuis l'enfance ?
Je parlais français, bon, mon père a été journaliste, écrivain et traducteur de beaucoup d'écrivains français, était très proche de Malraux, donc ça a été une chance. Et effectivement, il y avait une bibliothèque qui était aujourd'hui, elle me paraît drôle, elle était sur deux niveaux, elle était très profonde et il fallait un intellectuel qui se respectait à Bucarest ou en Roumanie avait surtout une bibliothèque profonde, peut-être pas très large, parce que derrière, il y avait les livres interdits et devant, les livres autorisés. Et il y avait un énorme trafic de livres interdits enveloppés dans du papier journal pour qu'on ne voit pas le titre. Donc je lisais et les livres autorisés, mais beaucoup plus les livres interdits qui étaient souvent en français. Et mon père, à chaque fois qu'il avait la chance, c'était pas facile, il fallait un visa, le passeport, en Roumanie c'était compliqué, et à chaque fois Malraux intervenait pour qu'on le laisse partir, et il venait en France pour écrire, soit pour écrire sur Malraux ou lui montrer les traductions, soit il a collaboré à l'encyclopédie du cinéma de Roger Boussinot, où il a écrit toute la partie des pays de l'Est, le cinéma sur les pays de l'Est. Et à chaque fois qu'il partait, il partait, il revenait en train. À l'époque, pour nous, Roumains, l'avion était trop cher. Et la chance était qu'il y avait des couchettes. Et sous la couchette, sous la banquette, il pouvait cacher des cartons entiers de livres que les douaniers, les policiers ne voyaient pas. Et toutes les attachés de presse des maisons d'édition à Paris le connaissaient parce qu'il allait mendier des livres en disant « Je suis un pauvre Roumain, donnez-moi des livres gratuitement ». Et donc la bibliothèque était presque une bibliothèque centrale de Bucarest où tous les intellectuels, les copains de mon père, venaient se nourrir de cette littérature-là. Donc voilà, donc, c'est un autre regard que j'ai toujours eu sur l'Europe et sur le monde, si on peut dire. Et j'ai toujours réfléchi plutôt sur le rapport qui correspond quand même à tous les invités ici, ce que j'appellerais du « dedans et du dehors ». Nous, les immigrés, on a la chance, on en souffre pendant longtemps et après on découvre un jour que c'est une chance d'être à la fois dedans et dehors, d'être jamais toléré dedans, vraiment à 100%, on en souffre et un jour on découvre qu'avoir ces deux regards qui est le regard du cinéaste en fait, c'est le regard du gros plan et d'aller chercher quelque chose à l'intérieur d'un acteur, d'un personnage, et de projeter ceci sur un costume, sur un décor, sur une réalité politique, sociale, qui est, entre guillemets, extérieure. Et donc ça, c'est un aspect qui est aussi, bon, pas seulement européen, il se retrouve aussi dans les rapports des deux Amériques, mais moi, j'ai découvert un jour, et ce jour-là, ma vie est devenue un peu plus paisible. Je souffrais beaucoup, par exemple, quand j'ai fait mes premiers films, qui était un film français, j'étais déjà français, et on me mettait comme cinéaste roumain un tout petit peu pour me rejeter, pour dire « tu ne fais pas partie de cette nouvelle vague-là, je ne sais pas laquelle ». Donc je souffrais beaucoup, j'allais pas avec Unifrance dans les tournées à travers le monde, et je disais, moi je suis qui? En Roumanie, on me dit je suis français, et en France, on me dit tu es roumain. Je vais en Roumanie, j'ai un accent français, donc je suis pas des leurs, et je connais pas très bien la réalité roumaine, et en France, on me dit tu es roumain, donc tu n'es pas des nôtres non plus. Donc j'étais vraiment, je me sentais vivre sur une frontière très mince, donc nulle part. Et après, j'ai découvert, peut-être c'est un mensonge, j'en sais rien, mais avec bonheur, que j'avais la chance d'être et dedans, donc de profiter du gros plan, de pouvoir saisir certaines choses de très près, et toujours loin, dehors. Donc de pouvoir avoir aussi le plan large, un peu le recul, et de combiner les deux aspects en même temps. Je crois que l'Europe aujourd'hui est à cette richesse-là aussi, qui est toujours ce rapport qui serait aussi le rapport de l'art, du parfait et de l'imparfait, du soi, qui est-on puisqu'on s'exprime qu'à notre propre nom et au nom ni d'une nation, ni d'une culture, même si après on est pénétré par un tas d'ondes. Et qu'une autre question, c'est qu'est-ce que c'est un Européen aujourd'hui de Salonique ou de n'importe, d'un lieu minuscule, qu'est-ce que c'est ce soi-là? De quoi est-il pénétré en tant qu'habitant de ce village ou de cette ville? La culture passée, la culture présente, l'environnement, Internet, le cinéma, les livres qu'il lit, etc. Et son rapport au monde, puisqu'aujourd'hui, ce qui a changé aussi depuis quelques années, c'est qu'on a un rapport très fort au monde. On n'est plus que soi dans son lieu et influencé juste par son environnement très proche. On est influencé par un environnement à la fois fictif et réel, qui est le monde. Beaucoup fictif, mais ça a une forte influence sur nous. Donc effectivement, une des questions les plus intéressantes aujourd'hui, quel est ce dialogue aujourd'hui entre le soi et tous ces éléments extérieurs, et effectivement entre le soi européen et toutes les cultures européennes et autres qui bougent autour de nous et qui viennent à nous, et nous on va vers elles. Effectivement, les immigrés, bon, ça a été mon destin, donc ça me concerne beaucoup et je traite beaucoup dans mes films du rapport et de la rencontre des identités différentes. Parce que je trouve une énorme richesse là-dedans. Aujourd'hui, je fais un film qui se passe entre Russes et Français. J'ai le grand plaisir, déjà, ne serait-ce que bon, au-delà du sujet, mais sur le plateau, de voir deux écoles très différentes d'acteurs. Les acteurs russes, c'est une école énorme. Et l'école française de jeu est très, très différente. Donc ça, c'est déjà un plaisir. Je ne sais pas si c'est perceptible pour tout le monde sur le plateau, mais parfois, je m'oublie et j'oublie la scène que je tourne parce que je prends ce plaisir-là de voir leur technique et leur façon de faire qui trahissent leur vraie culture et leur vraie identité. Donc moi, j'ai toujours été passionné par ça, d'essayer de comprendre la subjectivité de chacun, bien sûr, n'y arrivant jamais profondément, mais je crois que la richesse de l'Europe, c'est ça, c'est effectivement ce rêve d'une civilisation entre guillemets supérieure pendant longtemps, et comment la petite fourmi, ce petit Européen, tente de rejoindre ce rêve en se trahissant, en se trahissant pas, comment il lutte avec lui-même en allant vers cette hauteur de la pyramide. Je ne sais pas si c'est utile de l'atteindre, et le chemin est intéressant en tout cas. Voilà.
Pour quelqu'un qui ne théorise pas, je trouve que tu t'en sors très bien, vraiment. Bravo. Bravo. Alors Hugo Vieira da Silva, lui, j'ai vu, vous êtes né en 1974, c'est-à-dire que pour vous, vous êtes né l'année avant la révolution des œillets, donc pour vous, l'Europe, vous êtes né avec l'Europe. Vous êtes le plus jeune ici, de loin. Vous avez à côté de vous un cinéaste que vous connaissez, que vous admirez. Alors ça tombe bien, nous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, l'Europe, là où vous êtes, et vous êtes au tout début de votre cheminement de cinéaste. Est-ce que vous voyez se profiler quelque chose de plutôt... Enfin, est-ce que vous avez un certain optimisme, ou est-ce que ça vous donne une chance d'aller plus vite et d'aller plus profond dans l'expression que vous avez envie de manifester, ou est-ce que vous voyez au contraire le ciel plutôt sombre? Vous pouvez parler
comme vous voulez.
Je vais parler en portugais. J'espère en faire la traduction. Eu acho que disseram coisas muito interessantes sobre a Europa.
Je pense que vous avez dit des choses très intéressantes sur l'Europe.
Mas para mim é um conceito muito pesado.
Mais pour moi c'est un concept assez lourd.
Sinto que posso falar um pouco da minha experiência que sinto que posso saltar de um sítio para o outro de uma forma fácil.
Je pense que moi je peux passer d'un endroit à l'autre assez facilement.
E penso que as instituições e digamos as organizações que estão instituídas não estão adaptadas a esta vontade que as pessoas têm de se deslocarem.
Et je pense que les institutions et les organisations en fait ne sont pas adaptées à cette volonté qu'ont les gens de bouger à l'intérieur de l'Europe.
Bem, vou dar um exemplo.
Donc je vais donner un exemple.
Sempre me senti mais próximo dos meus colegas das artes visuais.
Je me suis toujours senti très proche de mes collègues des arts visuels.
Que é meio onde existem imensas bolsas e apoios, digamos, à deslocação para ir para outro lugar. Onde existem apoios e bolsas, onde isso há des apuis,
sim, que pode falar de novo.
Bom,
soutien, oui. D'accord, qui ont obtenu du soutien et de l'argent, donc pour.
Pronto, penso que nas artes visuais e mesmo na dança, por exemplo, são comunidades extremamente móveis.
Je pense qu'il y a des communautés extrêmement mobiles dans les arts visuels et dans la danse.
E no cinema isso não acontece.
Et ça ne se passe pas comme ça dans le cinéma.
Os meus colegas, quer dizer, uma pessoa quando procura um apoio, digamos, para poder viver para outro sítio, isso parece que não faz parte do quadro dos apoios ao cinema, digamos.
Oui, on a l'impression que quand une personne essaie de trouver de l'aide pour aller ailleurs, en fait, elle ne fait plus trop partie du cinéma.
Eu sempre tive essa vontade, sinto-me, pronto, um cidadão, digamos, do mundo. Não sei o que é que significa cinema europeu.
Moi, j'ai toujours eu envie de ça. Je suis un peu un citoyen du monde. Je ne sais pas exactement ce que c'est que le cinéma européen.
Eu sinto-me mais próximo do que fazem alguns colegas meus no México ou na Argentina do que algum cinema inglês ou francês.
Et je me sens plus proche de certains de mes collègues, en fait, qui font du cinéma en Argentine ou au Mexique que des Anglais ou des Français.
Pronto. Vou contar também um pequeno episódio que aconteceu com o meu filme.
Je vais raconter un petit peu quelque chose qui s'est passé avec mon film.
Mon film Body Rice est un film fait en Portugal avec allemands parlant en allemand.
Body Rice est fait au Portugal avec avec des acteurs allemands qui parlent allemand.
Digamos que é um filme para mim feito um pouco também do ponto de vista dos alemães.
Pour moi c'est un film quand même fait un petit peu sous un angle allemand, d'un point de vue allemand.
Sim, e o filme esteve no Festival de Locarno.
Donc ce film est passé au Festival de Locarno.
E depois tentamos trazer o filme ao Festival de Berlim no contexto do cinema alemão.
Et ensuite on a essayé de l'amener au cinéma de Berlim?
Festival de Berlim.
Au Festival de Berlim, dans le contexte donc du cinéma allemand.
Portanto, na secção Perspectiva Neue Deutsche Kino, que é a perspectiva do novo cinema alemão.
Donc dans la perspective de l'atelier,
une section perspective, c'est ça?
Dans la section perspective de l'atelier
du nouveau cinéma allemand.
Du nouveau cinéma allemand.
Et le film foi recusado nesse festival porque o critério para, digamos, para avalizar da nacionalidade do filme era a quantidade de dinheiro que maioritário, digamos, como o dinheiro maioritário era português, o filme não era considerado alemão e não podia entrar nessa.
Donc il a été refusé parce que le critère en fait de choix c'était la quantité d'argent qui était investi et comme il y avait pas assez non tinha dinheiro português suficiente. Il y avait trop d'argent portugais investi dedans et pas assez d'argent allemand qui était investi dans ce film. Donc il a été refusé pour cette raison.
Sempre fiquei um bocado perplexo porque as pessoas alemãs que veem o filme acham que é filme que toca e é, digamos, tem que ver profundamente com algumas questões que dizem respeito aos alemães.
Donc en fait ça m'a laissé un petit peu perplexe parce que c'est un film qui touche à des questions
relativas aos alemães e profundamente alemães, digamos.
Profundamente.
Relativas aos alemães.
Ah oui, qui concerne beaucoup les Allemands. relative aux Allemands et qui concerne les Allemands.
Então, para mim, há digamos, ainda uma série de paradoxos, digamos, entre esta suposta liberdade de circulação e de trocas, digamos, que depois, em alguns meios, por exemplo, como no cinema, ainda existe uma concepção para mim muito ligada a de que o cinema é muito nacional, local, pertence a um país. E eu não vejo assim, eu sinto que posso fazer um filme tanto na Alemanha, como em Itália, como em Portugal.
Donc en fait, je vois là-dedans un certain paradoxe. Hein, on parle de liberté de circulation, d'échange, et finalement, il y a une conception du cinéma qui est très nationale. Voilà. Et...
Oui. Bon, Manuel, vous allez dire quelque chose, non? Parce que l'Europe, vous, alors là, vous l'avez, elle est passée devant vous. Vous l'avez vue passer, l'Europe, plus que nous, et avec peut-être plus de. Comment dire ? Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que vous avez
pas
vu...
Plus.
Hein ?
Pas plus.
Pas plus que nous.
Non, pas plus. Parce que le premier roi de Portugal est fils dans comment dire, la région de Paris. La région de Paris.
La région parisienne, non.
Oui, la région, c'est...
L'île de France.
Oui.
L'île de France.
Oui. C'est pas... C'est vraiment, c'est français.
Hein? Comment? L'île de France, oui. C'est ça? C'est plus que la banlieue. Non, c'est mieux que la banlieue. Attendez, la banlieue... C'est...
Non, non, on me rappelle le nom, mais c'est pas exactement ça. Mais
Bourgogne,
Bourgogne, non, c'est pas.
Hein? On n'entend pas. Francilien, bon.
Bon, c'est de la région. C'est de la région.
La région, oui.
Oui. Et c'est le père de Afonso Henrique.
Oui.
Afonso Henrique, c'est le premier roi de Portugal. Son père, c'est de ce côté. Alors, c'est pas très loin de la France. Et après, il est mort. Et sa mère, ça prend un amant, c'est Castellan. Et ça fait peur de que la région Portugal se va faire Castellan. Alors, il fait l'opposition, la cour fait l'opposition à sa mère, à la traite. Très bien, mais on la met prisonnière dans un château et fait la conquête du Portugal. Disons, chrétien, naturellement, contre les musulmans qui ont occupé Portugal pendant 800 années. Bon, on va parler d'Europe, n'est-ce pas?
Oui, on va parler d'Europe. Et dans vos films aussi, on sent une... Vous l'avez dit l'autre jour à Antonio.
Comment je n'ai pas préparé pour ça. Je pensais que je partais aujourd'hui, mais c'est pas bon. Je suis là parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'est l'Europe.
Qu'est-ce que l'Europe? C'est la vraie question.
Oui, s'il y a...
Mais on espérait que vous sachiez, vous, plus que nous.
Non, mais disons, la civilisation, c'est européenne, vraiment. C'est occidental. C'est là qui est, je ne dis la chose plus bonne, mais c'est la dominante qu'elle dominait après les croisades. Parce que l'Europe n'existait pas avant la croisade. C'est après la croisade que tous les pays européens mettent la croix dans son flamme.
Drapeau.
Drapeau, oui, dans son drapeau. Et après, la civilisation se développe partout, par la France, par l'Italie,
par la péninsule, il finit par là. Je connais mal cette partie de l'histoire. Il faut aussi un historien pour dire les choses correctement. Plus correctement que mon français. Voilà. Mais en parlant du cinéma et du cinéma européen, je ne peux pas commencer pour dire que le cinéma a né avec, je répète cette chose parce qu'il a besoin de le répéter, commencer le réalisme avec Lumière et tout après la fantaisie, l'imaginatif avec comment ça s'appelle Méliès, oui, excusez-moi, mais les noms m'échappent toujours. Et après le comique avec Max Landel. Avec ces trois choses, tout le cinéma est exprès. Il n'y a pas d'autre. Peut-être qu'il manquait une partie, le côté spirituel. Peut-être, je ne sais pas. Mais je crois que dans ces trois, il ne figure pas le côté spirituel qui vient plus tard. Surtout avec Dreyer. Car Dreyer, c'est un homme qui comporte la... tandis que les autres portent beaucoup de légendes, des choses comme ça, mais c'est lui que je crois qui porte en plus force le côté spirituel. Et le côté spirituel se fixe, je pense, je suis sûr, se fixe surtout au nord. Les pays du nord sont beaucoup plus spirituels que les pays du sud. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a de la neige pendant 4-6 mois. Qui fait une différence très grande d'être très froid et en contraire au sud il y a la verdure toute l'année, ça fait une idiosyncrasie complètement différente dans contre les autres, mais l'Europe se conforme d'une certaine façon comme la tour de Babel. Oui, nous sommes tous là, mais tous sommes séparés. En premier pour la langue, pour le climat, et beaucoup d'autres choses. Et pour distinguer l'Europe, le cinéma de l'Europe, pour rapport, par exemple, au cinéma américain, c'est difficile. En retirant les films des cow-boys, c'est très difficile. Mais la différence nette sont les films des cow-boys. C'est net.
Ça voulait dire que c'est un genre que nous, on n'aurait jamais pu inventer.
Non. Notre croyance, c'est une autre. C'était une autre complètement différent. Il y a la guerre 14, il y a s'est transformé assez, en bataille très dure. Il y a la bataille contre Hitler, et cette bataille continue, malheureusement. Les Américains sont... qu'est-ce qu'est l'Amérique? L'Amérique, en parlant de l'État uni européen, comme Godard dit, parce que les Canadiens, ils sont des États-Unis américains. Et on appelle Canadiens. Et les Mexicains, ils sont les États-Unis américains. Mais ils s'appellent Mexicains. Et le Brésil, c'est les États-Unis au sud, mais ils s'appellent les Brésiliens. Et les États-Unis de l'Amérique, dit Godard, qu'est-ce qu'on appelle? Il n'y a pas de nom. Ils sont l'Amérique. C'est un peu un côté espagnol que pour rapport à la péninsule, quand le Portugal a fait la première compagnie aérienne, elle mettait là le nom de TAP, T-A-P, Transport Aérien Portugais. Et ensuite, l'Espagne mettait une autre entreprise aérienne qui s'appelle Ibérica. Ibérique, l'Ibérique s'est divisé en Espagne et Portugal, mais il prend tout. Ibérique. Nous sommes si ibériques que les Espagnols. Les Espagnols sont si ibériques comme nous, mais avec les différences. Nous avons et respectons une identité très forte. Mais je ne trouve pas un autre pays si universel comme le Portugal. Et ça, surtout à cause des découvrements. Les découvrements, c'est une force magnifique, de telle façon magnifique que le grand poète Camões, qui écrit Lusiade, et il fait une partie dédiée à l'île des amours. Et cette île des amours, c'est dédiée au découvrement, au marin, qui risque sa vie pour donner quelque chose, pas pour la conquête, pas pour le domine, mais pour donner. Il fait même se marier les marins avec les indigènes qu'il trouvait là. Il n'y a pas l'idée. Il donnait l'idée qui voulait faire aux marins l'éternité. Et il se fait une nid artificielle pour attirer les marins et le recevoir la thèse et se marier avec le contact sexuel avec eux pour lui donner l'éternité. Mais il fait ça au navigateur, au marin, pas jamais à aucun conquistateur, aucun guerrier qui a fait des grandes batailles, dominé, fait pas rien de ça. Ça, c'est très spécifique et très intéressant à m'avoir. Je pense même faire un film sur un tableau qui a un polyptico de 180. C'est la peinture la plus forte portugaise. Enfin, je voudrais pas empêcher de qu'on parle. Non, non. Mais c'est que le cinéma devient vraiment français.
Ah bon? Le cinéma devient français. Bon.
Vous ne croyez pas?
Ah,
je sais pas. Vous ne vous rappelez pas de Lumière? Vous ne vous rappelez pas de...
Ah, vient de... Ah, oui.
Non, mais c'est tout là, déjà. Bon.
Je vais lire ce texte, parce que peut-être qu'il va nous remettre un peu dans une dimension peut-être plus politique, donc Angela Riquilucci et Yervant Janikian, qui auraient dû être là, mais ils ne pouvaient pas, à cause d'eux, je crois. Ce couple, l'un des deux est malade. Donc il s'adresse à nous, et je le lis. Montaigne recommande de ne pas dissimuler la maladie et la douleur. Nous suivons donc son conseil. Nous aurions aimé être auprès de vous à la Cinémathèque pour ces importantes rencontres, mais une fracture et la douleur qu'elle procure nous en empêchent. Nous vous remercions de votre invitation, ainsi que d'avoir choisi notre film, Sur les cimes, tout est calme, pour nous représenter. L'Italie, Antonio, l'Italie est aujourd'hui traversée de choses qui nous bouleversent. Entre toutes, la plus affligeante sans doute est la discrimination que rencontre une communauté, en partie nomade et en partie sédentaire, persécutée depuis toujours. La communauté des Roms, qui a connu le génocide dans les camps d'extermination de la dictature nazie. Nous voulions donc aussi vous apporter, dans le cadre de cette manifestation qui inaugure la présidence française de l'Union européenne, notre court-métrage documentaire « Rome, Uomini ». On y assiste à la rencontre, au bord du lac de Côme, où elle s'est réfugiée aux dernières heures de la guerre, entre une famille de Roms échappés des persécutions du lager et un groupe de grands bourgeois venus filmer ces êtres si bizarres. Le moment le plus saisissant, ce sont ses mains qui soulèvent, pour mieux photographier son visage, la maigre couverture d'un petit enfant rom dormant sur l'herbe, enveloppé de chiffon, qu'il est mignon. Maintenant, ici, le racisme se répand. La mort jette dans l'anonymat les pauvres et les vagabonds. Nulle trace, ni histoire, nul dossier médical, ni rituel familier. La sélection sociale opère avec une terrible inéluctabilité. Une effroyable invasion de mendiants, de traînes savates et d'affamés provoque l'angoisse. Des étrangers inquiétants, répugnants, menaçants deviennent presque les personnages clés de la scène. Ils suscitent l'horreur, le dégoût et le mépris chez ceux qui les observent. On s'arme pour chasser les pauvres, pour les renvoyer dans leur enfer d'origine. Il en va du combat contre le terrorisme. Sur les cimes, tout est calme, et la deuxième partie de la trilogie de la guerre. Notre travail est une lutte contre la violence. Violence sur l'environnement, violence sur les animaux, violence de l'homme sur l'homme, et sa manifestation ultime, la guerre. Mais tourmentés et découragés, nous nous demandons parfois pourquoi nous continuons à nous battre. L'Europe s'est suicidée avec les guerres mondiales, avec les dictatures terrifiantes. Aujourd'hui, elle se désintègre avec le racisme, elle rejette ceux qui fuient la guerre et la famine et accepte qu'ils se perdent en mer. Pierre Bourdieu a anticipé le futur dans son livre « La misère du monde ». Nous sommes particulièrement sensibles au mot « exil ». Il fait partie de notre lexique familier, comme pour tout Arménien. Nous utilisons depuis toujours les documents d'archives que nous retravaillons jusqu'à les faire nôtres. Les archives ne nous intéressent pas par elles-mêmes, même si nous en avons une bonne connaissance. Nous ne sommes pas des philologues. Nous ne sommes pas non plus des archéologues ou des entomologistes, comme on nous définit parfois. Nous utilisons le passé pour le présent. Pour nous, seul le présent existe. Le philosophe Giambattista Vico a défendu une théorie cyclique de l'histoire selon laquelle nous ne serions pas à l'abri d'un retour de la barbarie. Notre projet de travail sur le fascisme, qui constitue la suite de notre relecture et notre transposition au présent de l'histoire du XXe siècle, a été rejeté. Nous aiderez-vous à le réaliser? Voilà. Donc ce texte nous a été envoyé hier soir d'Italie. Alors évidemment, là on a une vision pessimiste, on a une vision sombre, peut-être parce que ça vient d'Italie, à voir. Est-ce que l'Europe est menacée, vous pensez, vous? Roger. Non, c'est une question. Parce que là, je dis ça, je découvre le texte. Je ne l'ai pas lu avant exprès. Je ne voulais pas le ruminer parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas ma pensée. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on a une vision. On sait aussi, et ça a été dit incidemment tout à l'heure, Radou, que c'est vrai qu'on raccompagne des gens aux frontières. On sait qu'on a besoin aussi à la fois de s'ouvrir, l'Europe est une promesse, l'Europe est une chance, mais en même temps, il faut le monde bouge énormément. Il y a des phénomènes d'exil massif, du sud vers le nord, les pauvres vont vers les pays riches. Bon, tout cela, c'est une réalité. Nous, on l'aperçoit souvent de façon extrêmement empirique. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas Pierre Bourdieu, on n'est pas... Et en même temps, on sait bien que dans les films des frères Dardenne, on le voit. C'est une réalité qu'on voit physiquement. Lorna, elle vient, voilà, elle vient à Bruxelles, mais elle n'est pas de là. Elle veut rentrer dans le système. Elle veut faire partie du monde. Ça, c'est la grande donnée des gens. Les gens qui viennent, qui s'exilent, veulent faire partie du monde. Et c'est là qu'ils veulent faire partie du monde. C'est chez nous qu'ils se sentent appartenir au monde. C'est ça le paradoxe par rapport à ce que vous avez dit en ouverture, qui était très, très, très juste et très beau. C'est que l'Europe offre un cadre de liberté spirituelle et réelle. Il y a des vraies libertés sur notre continent. Et qu'en même temps, ces libertés, tout le monde voudrait se les approprier. Et sommes-nous capables de les accorder à tout le monde ? Voilà.
Vaste problème. Il faudrait une conférence au sommet pour répondre, essayer de répondre un peu à tout ça. Oui, oui. Mais un peu schématiquement. Je voudrais d'abord rappeler une chose pour continuer la réflexion de Luc sur l'Europe comme fiction, comme projet, que dans la culture universelle, l'Europe est responsable de beaucoup de choses, mais est responsable de trois inventions capitales. Le roman, le cinéma et l'avion. Ce sont des inventions européennes. Et comme par hasard, ce sont toutes des inventions qui permettent de bouger, de quitter l'Europe, de quitter la racine. L'Europe n'a pas de racine, et là, autre chose. Et là, cette capacité de fiction, d'invention, etc. Mais là, nous retombons sur le réel avec cette question-là. Nous sommes dans une très mauvaise période, bien entendu.
Une période qui va durer, une période... Pas une conjoncture,
une
plus que ça.
Une période qui n'est pas de conjoncture, qui est de crise peut-être considérable, parce que le projet européen même est mis en question par toute une série de directives, d'orientations sur la durée du travail, sur la durée de la rétention, sur beaucoup de choses. Et à mon avis, évidemment, c'est peut-être une réflexion politique un peu partisane et un peu personnelle, mais l'Europe, on voit bien que l'Europe est maintenant dominée par les systèmes de droite, par la pensée de droite. La pensée de gauche en Europe est minoritaire, un peu exclue, il n'y a pas d'influence. Parfois, le socialisme espagnol est un peu un alibi. Vous voyez bien, comme les socialistes espagnols approuvent, nous restons dans une ligne juste. Et en Espagne, le danger, c'est que on utilise le gouvernement social-démocrate actuel, utilise et tendance la tentation d'utiliser l'alibi européen pour justifier une politique de droite, sur la question de l'immigration en particulier. Sur la question de l'immigration, il est évident que là, il y a deux données contradictoires. L'Europe a besoin, ne fût-ce que pour exister, ne fût-ce que pour reproduire sa capacité de production, du point de vue de la natalité, du point de vue, etc., elle a besoin de plusieurs millions et millions d'immigrants dans les 15 ans qui viennent. Ça, on le sait. C'est établi. Et il faut organiser cela, bien entendu. Il ne faut pas tomber dans l'excès contraire qui consiste à dire « ouvrons-le bien ». Mais il y a un autre fait qui est culturellement important, qui est décisif, sur lequel je pense, à mon avis, tout à fait personnel, qu'on ne fait pas assez attention. C'est que l'immigration a changé. L'Europe, avant même qu'elle n'existe en tant qu'institution, l'Europe réelle, l'Europe concrète, l'Europe de l'économie, l'Europe de la culture et du football, s'est construite pendant des décennies avec des immigrants qui étaient pareils. C'était la même chose. C'était des catholiques qui venaient de Pologne ou du Portugal ou d'Espagne. Et c'était des blancs, disons, pour simplifier, hein. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, nous avons une immigration complètement différente. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, plus facile ou plus difficile. C'est différent, c'est autre chose. Ni l'Église catholique, ni le Parti communiste qui a disparu, ni la référence traditionnelle, le même. Avant, c'était l'autre, était le même. Avec des habits différents, des cultures différentes, c'était le même. Aujourd'hui, l'autre est l'autre. Et il est multitudinaire. Moi, je rappelle toujours l'exemple d'un très cher ami qui s'appelle Georges Charpak et qui est prix Nobel de physique. Charpak arrive dans les années 30 en France. Il arrive dans le 13e arrondissement. il a 11 ans, et l'instituteur le met au premier rang de la classe, à côté du meilleur de la classe, et dit à la classe de primaire, que le primaire, voilà, mes enfants, nous avons reçu un nouveau condisciple, un nouvel élève qui vient de Pologne, etc., qui ne sait pas un mot de français, nous allons l'aider, je le mets à côté de un tel, le premier de la classe, pour qu'il... Ben, il finit prix Nobel de physique, ce petit juif. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est possible qu'une classe primaire fasse ça? C'est évident qu'on a changé de paradigme, on a changé d'échelle, on a changé de culture. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas critiquer l'école primaire française que de dire que ce n'est plus possible. Bon. Ça, c'est un exemple pour montrer à quel point on est loin du système d'intégration jacobin qui a régi la France. Aujourd'hui, nous sommes devant quelque chose d'autre. Et si cette politique de protectionnisme, vous avez parlé des amis italiens parlent des tziganes, ou des roms, comme on dit maintenant, mais c'est une ethnie qui était autant que les juifs exterminés pendant le nazisme, pour la même raison, c'est la ressemblance, parce qu'ils étaient tziganes. Pas parce qu'ils avaient fait de la résistance, pas parce qu'ils avaient pris les armes, parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Même si le chiffre n'est pas équivalent, c'est exactement la même chose. Et ça se reproduit. Parce que c'est parce qu'ils sont roms qu'on les persécute. Ce n'est pas parce qu'ils sont illégaux ou sans papiers. Il y a des sans-papiers qui ne sont pas traités de cette façon-là. Donc c'est vrai que nous sommes dans une période très, très, très difficile et très compliquée. Très difficile et très compliquée. Et qui ne fait rien, qui ne change rien à ce qu'est la fiction, à ce qu'est le projet, à ce qu'est l'illusion européenne, au contraire. Peut-être que la meilleure façon de sortir de là, c'est de remettre en vigueur cette fiction. Et peut-être que le cinéma est un bon moyen pour aider à faire comprendre ces problèmes-là. Mais c'est vrai que nous sommes dans une période très compliquée, où le projet initial a l'air d'avoir disparu. On ne sait plus ce que c'est. Le projet initial est un projet inventé par la France et l'Allemagne, et inventé comme sur un plan fédéral ou fédéralisateur. Et aujourd'hui, c'est un projet de protectionnisme, d'utiliser l'Europe pour se défendre du reste du monde, d'utiliser l'Europe pour se défendre des immigrants, d'utiliser l'Europe pour se défendre de soi-même, finalement, de son propre projet. Nous sommes dans une crise qui est une crise qui dépasse largement les clivages politiques, qui est une crise de l'Europe profondément. Alors, est-ce qu'on va en sortir? Est-ce qu'on a aujourd'hui les hommes qui pourraient donner à l'Europe des idées sur elle-même? Est-ce que nous avons encore l'époque des Schmitt, des Mitterrand, des Kohl, des Felipe González? Est-ce que nous avons des dirigeants capables de donner des élites capables de donner cette idée-là? Je ne suis pas très sûr, mais en tout cas, c'est le problème essentiel. Excusez-moi du schématisme de tout ça. Bravo.
Radu ou Costa, après, je ne sais pas. Non. Radu.
Je rebondis sur une chose. J'ai eu une impression, mais je risque de me tromper, que le problème de l'Europe, Sioran l'avait dit, je ne me rappelle plus exactement de quelle manière, je le ressens comme ça, que l'Europe vit une crise de désir, qu'elle pense avoir atteint un sommet du désir et qu'au-delà de ce désir-là, il n'y a plus d'autres désirs possibles. Et qu'elle a fait le tour de toutes les questions, comme si l'univers était limité, des questions politiques, des questions idéologiques, culturelles, etc. Donc, pour moi, vu de mon point de vue, l'Europe sommeille. Et elle est perdue car elle ne sait plus quoi désirer. Et arrivent des gens qui, eux, n'ont rien vécu encore, ou en tout cas, ils ont l'impression que le désir chez eux est très fort, de plein de choses. Politique, sociale, culturelle, économique, etc. Donc je crois que le décalage, il est là. Et que la profonde crise occidentale ou européenne est une crise de désir. Idéologique, on le voit, on a l'impression qu'on a fait le tour de toutes les idéologies politiques, ce qui est faux, puisque l'univers est infini, et que l'univers spirituel, donc politique, est infini, et qu'il n'y a plus aucune solution à trouver. Et j'ai l'impression qu'à tous les niveaux, au niveau culturel, économique, à tous les niveaux, c'est la grande maladie actuelle de l'Europe et de l'Occident. Et c'est de là que viennent d'autres forces beaucoup plus fortes, comme l'islam, les religions ou d'autres peuples qui, eux, ont faim de désir. Et on a peur parce que, quelque part inconsciemment, on sent qu'ils ont beaucoup plus d'énergie que nous. Et c'est une vérité.
Monsieur, je peux dire que... Monsieur,
je
m'excuse de reprendre la parole, c'est pour enchaîner sur ce que vous venez de dire. Parce que, en fait, le désir de l'Europe existe très fort dans l'Est de l'Europe. Et là, ça pose tout de suite le problème de l'élargissement de l'Europe. L'une des thèses les plus répandues, que tout le monde vous raconte de façon différente, politiquement, à gauche ou à droite, c'est que ça a été trop rapide, l'élargissement. Trop rapide, qu'on élargit trop vite avant d'avoir construit les institutions, comme si on pouvait construire a priori des institutions pour accueillir les pays de 12, 19 à 27. Je crois que l'élargissement a été trop rapide parce qu'il a été trop retardé, parce qu'il a mis trop longtemps à se faire. Parce que de 1989, où l'Europe de l'Est a manifesté de façon très différente à travers des révolutions de velours ou à travers des changements ce qu'elle voulait, on a trop longtemps attendu. Et on a trop longtemps fermé l'Europe à cette l'Europe communautaire, l'Union européenne, à cette Europe-là. C'est le retard que nous payons, ce n'est pas la précipitation. Ça, il faut le voir clairement. Alors, il y a évidemment cette différence de désir. Moi, j'ai un souvenir très personnel de ça, et qui est, que je peux dire en deux mots, pour dire à quel point c'est vrai. En 1989, comme ministre de la Culture espagnole, j'ai fait un voyage en Hongrie, qui était encore un régime communiste, déjà en train de chanceler, déjà en train de se s'ébrécher, mais encore M. Gross était le secrétaire général du parti et le président du Conseil. Et j'ai pris contact, malgré tout, et malgré que la police le sache, mais n'a rien fait pour l'éviter, avec toute l'opposition démocratique hongroise. Et après, en rentrant, j'ai proposé à Felipe González de faire une réunion à Bruxelles avec la Hongrie et la Pologne, qui étaient des pays qui étaient déjà en ébullition, avec le ministre de la Culture officiel et un représentant de l'opposition démocratique. Pour la Hongrie, j'avais proposé György Konrád, écrivain européen, etc. Et pour la Pologne, Bronislaw Geremek, qui depuis a fait carrière en Europe, dans le bon sens du terme. La Commission de Bruxelles a refusé. Mais comment on allait recevoir des Européens qui n'avaient pas encore leur carte d'identité européenne ? Il a fallu tout le poids qu'avait à l'époque en Europe Felipe González pour qu'ils acceptent. Mais pour ne pas être contaminés, on n'a pas réuni ces Hongrois et ces Polonais avec les 9, c'était 9 à l'époque, ou 12, je ne sais plus, dans la salle habituelle des réunions, mais dans une autre salle pour qu'on ne soit pas contaminé par la peste de l'Est. Et ce n'était pas officiel. Et on n'avait pas le droit d'assister les 9 pays de l'Europe, ou les 12, je ne me rappelle plus, mais seulement la Troïka, c'est-à-dire les 3 pays dirigeants, le pays qui était président de la Commission, le pays antérieur et le suivant. Vous voyez, 1989. Et ils sont venus, on a fait une réunion qui a été formelle, qui n'a pas eu de répercussions dans les institutions européennes. Vous voyez le retard qu'on a pris. Donc vous avez tout à fait raison. Comment est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas compris ce désir, on n'a pas voulu aller vers ce désir, on a déjà commencé à bureaucratiser l'entrée en Europe. Et on paye les conséquences, bien entendu, on les paye, on va les payer très longtemps.
La discussion a pris une tournure très vaste. Vous avez posé la question, vous avez, est-ce que l'Europe est un danger ? Je crois personnellement que l'Europe, après tout ce qu'elle a traversé depuis, disons, les Lumières, on a eu le pire et le meilleur. Et je pensais qu'avec cette Union européenne, ça serait un moyen, une occasion aussi, pour en faire une Europe, finalement, d'éducation et de la culture. Et on a commencé par l'économie. Sans doute, l'économie était indispensable. Mais c'est dommage que la culture ne suive pas au même niveau ou à un niveau très proche. Il y a d'autres forces dans le monde économique, comme l'Amérique, par exemple, qui pensent qu'on peut résoudre les problèmes par la force. Je pense que l'Europe devrait passer par la culture et l'éducation. Je pense que c'est le seul moyen de sortir ce monde qui rentre dans une période très, très trouble, très dangereuse aussi par d'autres côtés. C'est les deux, je pense personnellement, c'est peut-être un peu naïf, c'est les deux moyens pour essayer de convaincre les citoyens, tout le monde, que le seul moyen, que la seule façon de vivre l'avenir, de vivre dans les années à venir, c'est en essayant de respecter le monde, nous-mêmes, les voisins, l'économie. On parle beaucoup de démocratie, c'est vrai qu'on parle sans arrêt de démocratie, mais je ne pense pas que nos démocraties sont celles qui devraient être. On vit un tout petit peu à la démocratie, un peu à l'athénienne. Vous savez, la démocratie athénienne était très démocratique pour les Athéniens, n'était pas très démocratique pour les esclaves, enfin, pour les autres. On vit un peu ça aussi. Donc je pense que pour convaincre les gens, parce qu'à la base, c'est quoi? La conviction, c'est que tout le monde puisse comprendre que l'autre a des droits, a des peines, a des joies, etc. Ça passe par la culture, et la suite de la culture, c'est l'éducation, et la suite, c'est la culture. Et le cinéma fait partie, peut faire partie, peut jouer un rôle très important dans le domaine de la culture.
Revenons au cinéma, alors. Soit Luc, soit... Parce que c'est vrai, on parlait de la Roumanie, ton pays d'origine. Moi, je connais un peu la Roumanie. J'ai été souvent en Roumanie. Ils parlent français. Beaucoup d'intellectuels français, de livres français sont traduits en roumain. Et en même temps, pendant très longtemps, on n'a plus entendu parler de la Roumanie à cause de la dictature. Et puis, tout d'un coup, le cinéma nous donne des nouvelles du pays. La Palme d'Or, l'année dernière, etc. Tout d'un coup, on voit que le cinéma, c'est quand même aussi une carte d'identité magnifique. Je dirais presque que c'est vrai aussi pour vous. Depuis vos deux Palmes d'Or, enfin, je veux dire, on a des nouvelles du monde et de l'Europe par le cinéma. Vous avez cité Fatih Akin, on aurait pu citer Goodbye Lénine. Enfin, il y a des films comme ça qui, tout d'un coup, nous permettent d'avoir nous-mêmes une carte de géographie plus à jour que la carte de géographie qu'on a appris à l'école et qui est totalement dépassée parce que l'Europe a changé. Est-ce que vous partagez cette idée que le cinéma donne des nouvelles quand même?
Bien sûr, le cinéma, l'image, c'est plus un secret pour personne aujourd'hui. C'est peut-être le vecteur le plus important, la plus grande force aujourd'hui, c'est l'image. C'est-à-dire avec l'image, on fait et on défait des guerres, on rehausse économiquement un pays, on change un régime. L'image, on le sait tous, cinéaste, qu'on a une responsabilité au-delà de faire un bon film. On a une responsabilité de qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, comment on le montre. Ce n'est plus aussi facile que jadis. Le cinéma n'est plus qu'une image projetée sur un écran. Hélas, quelque part, même si ça nous apporte un peu plus d'argent pour faire des films. Mais aujourd'hui, l'image est omniprésente partout. Et comme le disait Costa, c'est un vecteur d'éducation très, très important qui nous donne à la fois une responsabilité, donc, parfois, on n'en veut pas, parce qu'on aimerait faire les films d'une manière plus légère et ne pas avoir à réfléchir à chaque image, à chaque format, à comment les images s'enchaînent. Je donne un exemple pour Train de vie. J'avais une scène où les Juifs qui montaient dans le faux train de déportation avaient l'habitude d'embrasser la mezouza, qui sont des rouleaux de la Torah enfermés sous un petit bout de bois. Et comme il ne pouvait pas afficher cette mezouza devant les nazis, il l'avait cachée derrière une croix gammée. Et un des gags du film, peut-être de bon goût, de mauvais goût, c'était d'embrasser cette croix gammée avant de monter dans le train. Mais ce qui devait être juste une blague, ça m'a posé question pendant de longues semaines au montage. N'oublions jamais le plan du film de Spielberg où il avait laissé une douche et que de cette douche, unique plan du film, sortait de l'eau, et que moi, ça m'avait posé question. Pourquoi dans ce film de Spielberg, il n'y a qu'un plan de la douche et que de ce seul unique plan sort de l'eau et pas du gaz? Mais je ne le juge pas. Autant j'ai passé des semaines à me dire est-ce que j'ai le droit de garder ce plan-là ou ce plan-là va être récupéré par des gens, par des partis, pour dire que moi, j'avais une pensée malsaine et que je propageais cette pensée-là. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'impact de l'image est tel, Internet, téléphonie mobile, cinéma, l'image est omniprésente. Donc, ce métier-là, effectivement, influence énormément les enfants. On se pose énormément la question, est-ce que les crimes qui ont lieu dans des écoles, etc., est-ce que les gens, les enfants, les jeunes, ne prennent pas nos images et la vie en général pour un jeu vidéo ? Pour une fiction, quelle est la frontière entre fiction et réalité? Donc, pour répondre à votre question, oui, l'image aujourd'hui a, pour moi, malheureusement, trop d'importance. Elle a pris beaucoup plus d'importance que le livre, ce qui me paraît malsain, même si je fais le métier de cinéaste, parce que le livre te donne le recul, te donne la cette idée naïve et démocratique, c'est toi-même qui dialogue avec un auteur et que l'auteur ne t'impose pas ses images à lui. Et d'où bon, les films qu'on aime, nous, ce sont les films, disons, aérés, où l'image ne t'impose rien du tout. Où toi, comme spectateur, tu as ton espace entre les deux images. Ton espace est un recul pour réfléchir. Mais malheureusement, c'est de moins en moins fréquent aujourd'hui. Les images sont souvent des publicités où elles sont idéologiques. Et le danger, une des questions qu'on se pose dans toutes les organisations avec des cinéastes français, c'est qu'est-ce qu'il arrivera demain où il y aura peut-être 2-3 réseaux de diffusion d'images, Google, Yahoo et d'autres, qui nous imposeront forcément pour vendre de la pub une idéologie. Donc là, moi qui ai eu la chance d'échapper à une petite dictature, où est-ce qu'on s'évadera ? Où est-ce qu'on fuira et de quelle manière ces dictatures-là ? Ça pose, je crois, une réelle question.
Je voudrais ajouter une chose. Il est vrai qu'on pervertit de plus en plus les images. Emmanuel d'Oliver a dit une chose très intéressante hier dans son échange avec Vitavoki. Il a dit que la pensée et l'image est importante. Ça m'a fait penser énormément à la suite de cette réflexion. Et je me suis dit que c'est vrai qu'on ne peut pas penser le monde sans les images. On ne peut pas réfléchir sur le monde, essayer de voir qui est le monde sans avoir ces images. Et qui apporte ces images aujourd'hui ? C'est vrai que le cinéma essaye, mais on a des images qui viennent de partout. Il y a la télévision, il y a la publicité, il y a l'Internet. Enfin, c'est des images. Il y a un tel déferlement d'images et qu'on n'arrive plus à comprendre. Sans parler des jets électroniques, des horribles jets électroniques, on n'arrive pas à comprendre ce qui nous apporte ces images et qu'est-ce qu'il faut penser de ce monde. Voilà, je pense que c'est le problème. Je pense donc aussi que la tâche du cinéma est très importante, c'est essayer de montrer des images justes.
Hein ? Quoi ?
J'aimerais répondre là.
Oui, allez.
Non.
Et puis après, si la salle veut poser une question ou deux... On... Oui. Non, allez, non. Bah, vous d'abord.
Non, ça... c'est vrai. On ne peut pas penser sans une image. On peut penser le futur. Mais on ne peut pas résoudre le futur. Le futur, c'est énigmatique. Et du côté cinéma, c'est-à-dire du côté artistique, c'est l'affaire des artistes de déligner le futur. Le futur est dans les mains des politiques qui font les lois pour régler le futur. Mais énigmatiquement, il peut résulter bien ou mal. C'est l'impossibilité de savoir le résultat. C'est justement, à mon avis, la différence entre la sagesse que devient de l'expérience souffrie et la connaissance que c'est qui gouverne la civilisation et la domination de l'Europe, dans le monde entier. C'est-à-dire que nous savons par l'expérience que par la connaissance, nous avons arrivé à un point extrême de la pollution mondiale. Et nous avons pleine conscience de ça. Pour que ça, c'est le résultat de l'expérience, pas le résultat de la connaissance, que c'était européenne. Et nous savons les erreurs. Et au lieu de nous chercher la sagesse orientale, c'est très fort. Non, c'est l'Orient qui prend la connaissance européenne pour faire les mêmes erreurs comme prouvé en Chine, au Moyen-Orient, avec la bombe atomique, avec toutes les bêtises industrielles, la pollution universelle. Quoi faire? Nous sommes dans la main des politiques.
Merci. Merci. Ah, Monsieur Tabouki. Micro. Et après, on va... Il faudra qu'on arrête. Et surtout, Antonio, vous avez une signature et on veut tous aller se faire signer des livres par vous.
Oui, oui. Merci. Merci. Je voulais tout d'abord vous remercier pour cette table ronde où j'ai écouté vraiment des choses très, très intéressantes sur l'Europe et sur le cinéma, mais sur l'Europe surtout. Moi, j'interviens parce que il y a eu cet appel qui vient de l'Italie et qui a été signé par deux jeunes cinéastes, Irvan Janikian et Angela Ricci-Lucchi, n'est-ce pas ? Et donc qui se réfère à un problème qui regarde en particulier mon pays. Mais je prends aussi la parole parce que j'ai écouté des choses très intéressantes qui ont été dites ici par tous. Et vraiment, donc, tout d'abord, merci Manuel d'Oliveira pour avoir rappelé deux choses. L'expérience et les lois. D'accord, l'image, le cinéma, la littérature, etc., mais l'expérience. Jakobson, le grand linguiste russe, disait « Personne peut avoir l'idée du mot, la signification, la compréhension du mot fromage s'il n'a jamais mangé du fromage. » Les lois. Je baisse un peu la question. Les questions que vous avez dites sont très, très intéressantes. Mais je voudrais, comment dire, me maintenir sur un plan un peu plus réaliste, un peu plus modeste et un peu plus bas. Je laisse de côté, ça constituerait, comme on a été dit, comme on dit Costa, comme on a été dit, vraiment la réflexion pour une table ronde, pour des sessions entières, la réception, l'accueil, les extra-communautaires, les sans-papiers, etc., etc. Je me limite à dire. La question aussi, si l'Europe est plus à gauche ou plus à droite, on les laisse de côté. Le fait est que en Europe, en ce moment, on n'a pas encore une constitution. C'est vrai, il s'agit en ce moment, d'un moteur qui est un peu en panne, hein, qui est bloqué, si vous voulez. Nous savons qu'il y a eu des pays qui ont donné une certaine contribution à ce blocage. Mais laissons de côté tout ça, pas de polémique. Donc, on n'a pas, disons, encore une constitution. Mais quand même, on a des bases, des lois que nous pouvons appliquer. Et qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui en Italie ? Attention, il se passe une chose très, très grave. En ce moment, il y a une semaine, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Maroni, un politique de la Ligue Nord, du parti de la Ligue Nord, avec en affirmant qu'il faut faire, il faut censimento de la population rome en Italie, il prend les empreintes digitales de tous les enfants roms présents en Italie. Or, il faut rappeler que les roms sont tous citoyens européens. Ils n'arrivent pas du pôle Nord, ils sont européens.
et qu'il y a une loi européenne qui empêche d'appliquer des lois racistes. Or, maintenons-nous tranquillement sur le plan réel et exigeons que l'Europe stoppe cette opération évidemment raciste, hein, que nous ne pouvons pas tolérer. Pour le moment, contentons-nous d'avoir certaines lois en Europe qui nous protègent, disons, d'un danger qui pourrait être imminent. Si on le dépasse, ça pourrait devenir vraiment dangereux. Merci.
Moi, si quelqu'un veut conclure, Luc, ou... Comment ? Moi, conclure ? Pardon ? Allez, mademoiselle.
Ah bon ? Oh. C'est bon. Selon vous, monsieur, est-ce que les femmes, en général, les européennes ou les femmes cinéastes ont quelque chose à dire sur les sujets que vous venez d'évoquer ?
Les femmes cinéastes ?
Oui, ou leur opinion, on peut passer sous le silence ou on peut les ignorer.
Qu'est-ce que vous pensez quoi ?
Je pensais que ce soit vraiment gentil que parmi vous, il y a des femmes.
On en a invité. On en a invité beaucoup. Et on attendait même beaucoup. On a eu beaucoup de gens qui ne pouvaient pas venir, soit en France, parce qu'ils sont en Europe. On avait l'espoir que Chantal Akerman vienne. Et jusqu'à tout à l'heure, elle était... Hein, et elle n'est pas venue. Bon. Mais imaginez bien que... Je pense que tout le monde a droit à la parole et tout le monde pense librement et peut apporter sa contribution, bien sûr.
Je me permets du coup de prendre la parole 2 secondes pour vous dire qu'on est désolé, mais qu'il peut y avoir 1 ou 2 questions, mais qu'on a absolument besoin de la salle pour préparer la lecture qui suit de Denis Podalydès, c'est que ça demande un peu de travail.
Une lecture de texte, oui.
Voilà.
Monsieur.
Le sujet, la table ronde, c'est autour de l'Europe, un sujet de cinéma. En tant qu'Africain cinéaste, plus précisément béninois qui évolue en Chine, je suis vraiment intéressé parce que je me suis dit, ce sujet-là, je peux faire une transposition. Il n'a, dans cette vie, rien n'est encore inventé. Il faut suivre les autres, il faut suivre le pas des autres et s'adapter à ces réalités. Mais sincèrement, je suis un peu déçu de cette table ronde parce que j'ai constaté qu'on a discuté plus de l'Europe que de cinéma. Je voudrais savoir si, est-ce que dans ce sujet-là, est-ce qu'on veut dire, on veut parler de la coproduction européenne ou bien on veut parler du rôle que le cinéma veut jouer dans l'Union européenne.
Merci. Qui veut répondre ? Allez, moi je... Qui veut répondre ? On n'a pas tout dit, hein. C'est vrai, on a fait une heure et demie, 2 heures.
Il est vrai que vous posez une question vraiment très fondamentale concernant le cinéma et les cinéastes. Il y a des coproductions, si j'ai bien compris votre question, il y a des possibilités de coproduction. J'ai cité tout à l'heure leur image, où un metteur en scène peut présenter son scénario et essayer d'avoir des fonds pour faire son film, mais il faut une... triple coproduction, il faut que ça soit son pays, propre pays, et des autres pays avec qui on produit. Deux autres pays, c'est cela.
Non seulement deux, maintenant. En fait, deux.
Et il y a deux pays maintenant, voilà. Luc me corrige. Donc c'est plus facile. On peut dire qu'il n'y a pas, il y a de l'argent, mais il n'y en a pas assez d'argent. Je pense que l'Europe devrait donner beaucoup plus d'argent à cet organisme pour que plus de cinéastes puissent en bénéficier. L'autre problème de coproduction, c'est aussi la distribution. On l'a évoqué rapidement, je crois que Georges qui l'a évoqué rapidement. Il faut qu'il y ait un système pour que les films européens puissent circuler en Europe, puissent être vus dans les salles et aussi aux télévisions. C'est encore très embryonnaire. On parle beaucoup, mais ça n'est pas encore fait. Il est vrai aussi que l'Europe peut aider les pays comme les pays africains. La France l'a fait beaucoup, elle l'a fait beaucoup moins depuis quelques années. pour que des pays africains ou des pays asiatiques aussi puissent faire leurs films. Il y avait des sommes assez importantes et au ministère des Affaires étrangères en France et au Centre national du cinéma pour aider ces pays. Il n'y en a plus, il y en a très peu. C'est pour ça d'ailleurs que on peut dire que le cinéma africain en souffre énormément. Il ne fait, ils ne font plus autant de films qu'avant. Donc l'Europe peut jouer son rôle. Et je veux dire un dernier mot, c'est qu'il ne s'agit pas des sommes énormes. Il faut très peu d'argent. Vu le budget colossal de l'Europe, pour aider les cinémas de tous les pays européens d'abord et ensuite d'autres pays, il ne faut pas énormément d'argent. Quelques millions suffiraient pour le faire. Mais j'ai cité plusieurs fois les ministres de l'économie, ils freinent tous à fond, même si certains chefs d'État ont je dirais presque la velléité d'avoir une culture politique culturelle, une politique culturelle plus importante. Voilà. Mais les coproductions existent. Il y a aussi des systèmes d'écriture, d'aide à l'écriture en France et dans d'autres pays, je crois, en Belgique aussi, il y en a, d'aide à l'écriture, c'est-à-dire présenter un synopsis sur un scénario et avoir un peu d'argent pour pouvoir poursuivre, trouver un scénariste aussi pour finir son scénario, etc. etc. Mais j'insiste, c'est encore au niveau plutôt embryonnaire, ça devrait... L'Europe, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le rôle culturel de l'Europe, devrait aider vraiment... Parce que nous, les cinéastes français, nous pensons tous que tous les pays devraient avoir le cinéma, leurs images, parce que c'est la seule façon, comme le disait tout à l'heure, de réfléchir sur les sociétés et puis aussi de s'amuser aussi, n'est-ce pas? Parce que le rôle des images, le rôle du cinéma, c'est là aussi de s'amuser, de pleurer, rire, haïr, aimer, etc., etc. Voilà.
Merci. Ah. Manuel va conclure. Si, vraiment, conclure, c'est vous.
Non, ce n'est pas pour conclure, c'est pour répondre
alors, pour ouvrir,
à quelque chose que Tabouki a dit, mais il n'est pas là.
Non, parce qu'il doit signer ses livres, on va le
mais retrouver. Mais il viendra. Quand même, je voulais dire, à cause de ça, que je trouve que le cinéma n'est pas une industrie. Parce que l'industrie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète l'article de succès 1000 fois. Ou le cinéma, du côté artistique, il ne se répète jamais. C'est personnel. La vraie identité, originalité, c'est la personnalité du réalisateur. À l'âge moyen, à la Renaissance, tous les peintres peintent la même chose. Et toutes les peintures sont différentes à cause de la personnalité personnelle. Ça, c'est ce qui compte, c'est la vraie originalité, à mon avis. Mais ce que je voulais dire vraiment, ce qui est industriel, sont les studios, la fabrique des machines, la fabrique de la pellicule, le laboratoire, ça, tout ça, c'est industriel. Mais pas pour le cinéma artistique, pour le cinéma commercial et de propagande et de réclame, et tout ça, c'est une industrie, oui, évidemment. Mais dehors de ça, du point de vue artistique, c'est l'artisanat. Mais pour répondre à quelque chose qu'il a dit, qui est du proverbe ou d'une légende russe qui disait si nous ne mangeons pas, nous mourrons. C'est vrai. Mais il y a un proverbe russe qui dit sur l'optimisme, il dit le pessimisme, c'était la conclusion de l'optimiste.
Bravo. Je vous remercie tous et toutes.